Europe 1.
Jouez à Cyberpunk 2077. Conduisez des bolides, combattez des corporations et améliorez votre corps.
On va s'amuser un peu.
Cyberpunk 2077. Achetez-le dès aujourd'hui sur Xbox, PlayStation, PC et Stadia. PEGI 18.
Ah 16h-18h sur Europe 1.
Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Bienvenue à tous, ici Mathieu Noël, impatient de vous dévoiler notre thème du jour. Vous le savez, chaque après-midi dans Historiquement Vôtre, on vous raconte l'histoire sur un ton badin, sans justement se la raconter, à travers trois personnages qui sur le papier n'ont rien à voir et qui pourtant ont un point commun. Aujourd'hui, celui d'être dans l'ombre d'une personnalité écrasante, comme Robin vis-à-vis de Batman, ou comme moi vis-à-vis de mon Batman mou. Bonjour Stéphane Bern.
Bonjour Robin, enfin Mathieu. En fait, j'ai joué Robin, enfin bon, c'est une autre histoire.
Ah non, non, arrêtons là-dessus, vous avez joué Robin dans quoi ?
J'ai fait la voix de Robin dans l'un des derniers Batman, oui.
Mais Batman, le dessin animé ou
oui,
Batman, le vrai
animé.
Film ?
Dessin animé.
Ah non, le dessin animé, oui. Okay. Il avait tourné avec Nolan. Ok, très bien, merci Stéphane pour ce petit point. Parce que je me dis, il y a un problème de casting.
Je reste à mon niveau,
oui, oui,
mon
d'accord,
cher Mathieu.
Dans le dessin animé.
En tout cas, bonjour à tous, chers auditrices, chers auditeurs. Cet après-midi, nous avons décidé de rhabiller...
Rhabiller, ça c'est vous, hein. Ils étaient déjà habillés normalement.
Alors, nous avons décidé pour vous de réhabiliter ceux qui ont passé leur vie dans l'ombre d'un géant ou d'une géante et qui sont passés inaperçus dans l'histoire. Et c'est très injuste dans les personnalités du jour. Le père Joseph, vous savez qui était le père Joseph ?
Alors moi, je ne sais pas.
Eh bien, il était dans l'ombre du cardinal de Richelieu. Et personne
n'a jamais... Il était l'éminence grise de l'éminence grise.
Exactement. Auguste Maquet. Qui était Auguste Maquet ? Je vous le donne en mille. Il était l'éminence grise derrière, il était aux côtés, il était penché sur l'épaule du grand Alexandre Dumas.
Ah, Alexandre Dumas, voilà. Ouais.
Je fais durer le plaisir.
Ah non, vous êtes très fort pour ça.
Et vous, qui parlez des vivants beaucoup plus que des morts, là, pour une fois, vous avez un héros de l'ombre, mais certes plus récent.
Oui, il s'est caché toute sa vie derrière Céline Dion, ce qui, connaissant sa corpulence et celle de Céline, relève du prodige. Je vous raconterai le destin vraiment étonnant de René Angélil.
Ah, très bien.
Que vous avez connu, je crois, Stéphane.
Je l'ai rencontré.
Éminemment sympathique, m'avez-vous dit.
Très sympathique, vraiment sympathique. Un monsieur de tout à fait convenable. Et puis, alors... Eux le sont tout autant, ce sont nos chroniqueurs.
Plus sympathiques, convenables, on ne sait pas, mais ils sont sympathiques.
Ils sont sympathiques et convenables. Clémentine Portier-Kaltenbach, pour commencer, honneur aux dames.
Oui, bonjour messieurs. Alors, voyez-vous, l'intimité des grands de ce monde, elle est faite aussi d'objets familiers. L'autre jour, comme vous aviez consacré l'une de vos émissions au chapeau melon de Charlot. Charlot, évidemment, ne serait pas Charlot sans son chapeau melon, mais... le serait-il sans sa canne ? Alors aujourd'hui, j'évoque pour vous la disparition d'un personnage historique, lui aussi indissociable de sa canne. Ça vous dit quelque chose ?
Oui.
Bah oui.
C'est le compositeur Lully s'est envoyé la canne.
Ça paraît à Stéphane, mais beaucoup moins à Poul.
Il en est mort de sa canne.
Ben,
vous allez voir, Stéphane, précisément que l'histoire de cette canne n'est pas celle que l'on croit.
Face à vous, Clémentine, il... frétille d'impatience, David Castello-Lopez, chaque jour, l'origine d'un objet ou d'une tradition aujourd'hui.
Exactement, alors là c'est quelque chose qu'on a, je pense, on est tous en âge d'avoir utilisé, même si peut-être pas au même degré, c'est les origines du jeu vidéo.
Ça c'est moche. Oui, Stéphane, il avait le jeu vidéo avec la petite barre.
Le Pac-Man, là. Non, quand on joue au tennis, vous vous souvenez,
Pong.
Non, même pas.
Une espèce de ping-pong.
Même pas, Stéphane.
Mais il n'avait pas la télé, de toute façon.
Ah oui, c'était vraiment une
autre époque. PlayStation, pas rien.
Rien du tout.
On a les droits.
Des jouets en bois.
Des jouets en bois et après directement des livres.
Et des bouts de ficelle.
Ah non, mais ça explique ce que je suis aujourd'hui.
Vous avez fait un petit moulin là, sur l'eau, là, comme dans la pub pour les saucisses.
Écoutez, pour nous faire plaisir, il a fait la recette que nous espérions tous.
Oh oui,
et je suis sûr que vous allez en baver de gourmandise avec Olivier Pouls, on va parler.
Oui, vous m'aimiez déjà, mais là je crois que vous allez m'adorer parce que je vais vous donner la recette et puis je vais vous raconter comment est né ce dessert incroyable, le fameux coulant au chocolat. Vous savez, quand vous le coupez et que le cœur vient dégouliner dans l'assiette comme ça.
C'est fabuleux.
Contraste de texture.
Enfin, les amateurs d'action trouveront aussi leur compte dans notre émission avec la séquence sadi-comique intitulée Bern to be alive, le quiz, qui vous permet de vous mesurer à Stéphane Bern.
Oui, mais d'abord, plongeons dans notre thème du jour. Dans l'ombre des géants avec l'histoire du père Joseph l'éminence grise méconnue du cardinal de Richelieu que je vous raconte dans un instant. Allez, historiquement vôtre, c'est parti pour aujourd'hui.
16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
On met en lumière cet après-midi un homme de l'ombre, le père Joseph du Tremblay. En s'imposant comme le plus proche conseiller du cardinal de Richelieu, premier ministre de Louis XIII au XVIIe siècle, le père Joseph a eu une influence considérable sur la politique française. Il existe au musée du Luxembourg à Paris une toile de Jean-Léon Gérôme intitulée « Éminence grise ». C'est le surnom donné au père Joseph à cause de sa robe de moine. L'expression vient de là, il faut le rappeler, « éminence grise » vient du père Joseph. Sur ce tableau, la scène se passe au palais cardinal, qui est l'actuel palais royal à Paris. Dans le grand escalier, une dizaine de courtisans s'inclinent devant un religieux. Maigre, affublé d'une petite barbiche, il est absorbé par la lecture d'un livre de prière qu'il tient entre les mains. Cet homme d'église, à la fois humble et puissant, c'est le père Joseph. Revenons aux origines. François Leclerc du Tremblay est né à Paris en 1577. À 20 ans, le jeune homme s'engage dans l'armée, puis la quitte pour entamer des études de théologie et intégrer l'ordre religieux des Capucins sous le nom de Père Joseph. Le Père Joseph est un homme de foi très actif. Grand prédicateur, il parcourt inlassablement les provinces françaises pour convertir les hérétiques, autrement dit les protestants, au catholicisme. Dans les années 1610, à presque 40 ans, il fonde un nouvel ordre religieux, la Congrégation des Filles du Calvaire. À cette occasion, le père Joseph rencontre Armand-Jean du Plessis de Richelieu, qui deviendra plus tard le ministre tout-puissant de Louis XIII. Pour l'instant, Richelieu est évêque de Luçon, qu'il appelle d'ailleurs la plus vilaine ville du royaume. C'est pas sympa hein, pour les Luçonnais, mais passons. Rapidement, les deux hommes se lient d'amitié. Richelieu respecte la foi profonde du père Joseph, son énergie ainsi que sa perspicacité politique. Quant au père Joseph, il admire ce jeune évêque qui a 7 ans de moins que lui mais possède une intelligence et une ambition hors normes. Le père Joseph le sent, ce Richelieu, il ira loin et il ne se trompe pas. En 1614, à l'occasion des états généraux, Richelieu prononce un discours devant le gouvernement dans lequel il réclame plus de pouvoir pour les ecclésiastiques. Mais surtout, il clôt son propos par une ode à la mère du jeune Louis XIII, Marie de Médicis, qui tient alors les rênes du pouvoir depuis la mort de son époux Henri IV. « Heureux le roi à qui Dieu donne une mère pleine d'amour envers sa personne, de zèle envers l'État et d'expérience pour la conduite de ses affaires. » La reine apprécie ce Richelieu qui sait si joliment offrir un compliment. En 1615, quand le roi Louis XIII se marie, ça ne manque pas. Richelieu est nommé aumônier de sa jeune épouse, Anne d'Autriche. C'est une belle promotion, mais Richelieu ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. L'année suivante, il entre au Conseil d'État. Le père Joseph n'est pas étranger à cette ascension fulgurante. Il s'est trouvé impliqué dans les négociations de paix entre membres de la haute aristocratie qui se disputent le pouvoir depuis la mort du roi Henri IV. Ayant l'oreille de la reine Marie de Médicis, le père Joseph ne cesse de lui vanter les mérites de Richelieu.
C'était son conseiller en com, en fait,
oui,
aussi.
Oui, exactement. L'année d'après, le père Joseph part pour Rome afin de convaincre le pape de lancer une croisade contre les Turcs, mais le projet échoue. Quand il revient en France, au bout de quelques mois, le père Joseph apprend que le vent a tourné pour Richelieu. Le jeune roi Louis XIII s'est rebellé contre sa mère, Marie de Médicis. La voilà donc en exil au château de Blois. Quant à ses conseillers, dont Richelieu fait partie, ils n'ont même plus le droit de remettre les pieds à la cour. Richelieu appelle alors à l'aide le père Joseph, son mentor, qui connaît bien le duc de Luynes, le favori tout-puissant du roi Louis XIII. Grâce à lui, le père Joseph obtient le retour en grâce de Richelieu qui reprend ainsi sa fonction de conseiller auprès de la reine Marie de Médicis. Puis, grâce à son habileté politique, Richelieu est de retour au conseil du roi, qu'il dirige même dès le mois d'août 1624. Il écrit immédiatement au père Joseph pour le tenir informé, soulignant qu'il est, je cite Richelieu, « après Dieu, le principal artisan de sa fortune actuelle ».
Il croyait quand même en Dieu. Oui. Parce qu'on a l'impression qu'ils sont plus intéressés quand même par des problématiques stratégiques que par le...
Oui, mais regardez, il a quand même la reconnaissance pour le père Joseph.
Ça, c'est vrai.
Parce que d'aucuns en manqueraient singulièrement. Hein. On en veut toujours aux gens qui vous ont porté au pouvoir ou qui vous ont fait du bien. Richelieu confie au père Joseph un secrétariat officieux aux affaires étrangères. Le père Joseph devient à la fois confident et conseiller de Richelieu, nommé cardinal en 1622. Ses activités sont nombreuses. Le père Joseph s'intéresse beaucoup à la presse, utilisant l'un des premiers journaux français, la Gazette, comme instrument presque de propagande pour légitimer l'action de Richelieu. Il dirige également un vaste réseau de renseignements grâce aux moines capucins qui se déplacent un peu partout dans le monde. Le père Joseph est aussi un homme d'action. Lors du siège de la ville de La Rochelle en 1628, il assiste au conseil de guerre, donne un coup de main aux brancardiers, tente même de prendre la ville par surprise en passant par les égouts souterrains. L'une de ses principales préoccupations est de mettre un terme à la domination de l'Espagne et du Saint-Empire germanique en Europe. Effectuant de nombreuses missions pour le cardinal de Richelieu, le père Joseph parcourt l'Europe pour nouer et dénouer des alliances. Mais au cours d'une mission à Ratisbonne, Regensburg en allemand, située dans le Saint-Empire romain germanique, le père Joseph commet en 1630 la plus grosse bévue de sa carrière.
Europe 1, 16h-18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Vous nous parliez, Stéphane, du père Joseph du Tremblay, l'éminence grise dans l'ombre du cardinal Richelieu. Il fut l'un des hommes les plus influents de son siècle, en fait.
Oui, Mathieu, sauf qu'en 1630, le père Joseph commet une belle bourde. À Ratisbonne, après d'âpres négociations avec les représentants du Saint-Empire romain germanique, il récupère au nom de Richelieu, et donc de la France, une partie du territoire du Piémont. Mais en échange, la France s'engage à ne pas porter assistance aux ennemis de l'archiduc d'Autriche, Ferdinand II. Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant ces négociations, le père Joseph est sans nouvelles de Richelieu qui a d'autres chats à fouetter, même il aimait beaucoup les chats, car le roi de France, Louis XIII, est très malade. Le père Joseph signe donc le traité sans avoir reçu d'instruction.
Mais comment c'est possible ?
C'est une terrible erreur, je sais, Mathieu, mais finalement, Richelieu ne lui en tiendra pas rigueur. Pour la forme, le père Joseph est envoyé en disgrâce, mais seulement quelques jours. Après tout, qu'est-ce qu'une petite erreur contre des années de bons et loyaux services ? Le père Joseph, qui habitait dans une cellule du couvent des Capucins, c'est rue Saint-Honoré à Paris, ah non, il a disparu, finit par loger au palais cardinal. Je vous l'ai dit, c'est l'actuel palais royal. Dans une grande chambre, communiquant directement avec les appartements de Richelieu. Chaque jour, le père Joseph lui expose les grandes questions du moment, lui soumet les dépêches qu'il reçoit et accueille en son nom ministre et agent diplomatique. Après le roi et Richelieu, on peut dire qu'il est le troisième personnage de l'État. Richelieu, qui à ce moment-là est perpétuellement malade, penserait d'ailleurs à lui pour sa succession. Mais épuisé par ses multiples activités, le père Joseph est victime de deux attaques cardiaques en 1638 qui le laissent presque totalement paralysé. En décembre de la même année, alors que la dernière heure du père Joseph approche, Richelieu veille à son chevet. Soudain, le cardinal reçoit une dépêche du front d'Alsace, Brisac, une ville-forteresse de première importance pour le Saint-Empire romain germanique qui a capitulé devant l'armée française. Cet événement est décisif dans la politique menée depuis des années par Richelieu et le père Joseph, son éminence grise. Richelieu s'écrie « Père Joseph, Brisac est à nous !» L'histoire raconte que le mourant ouvre une dernière fois les yeux avant de s'éteindre définitivement.
Europe 1, historiquement vôtre.
Pour continuer de parler du père Joseph, l'éminence grise du cardinal de Richelieu, nous sommes avec Charles Zorgbib. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Bonjour Charles Zorgbib. Vous publiez « Les éminences grises dans l'ombre des princes qui nous gouvernent » aux éditions de Fallois, dans lequel il est évidemment question du père Joseph. C'est à lui d'ailleurs que l'on doit cette appellation d'éminence grise qu'on emploie toujours aujourd'hui pour décrire les conseillers de l'ombre. Et dans votre livre, vous écrivez « Dans le théâtre politique, le rôle d'éminence grise est l'une des plus convoitées du répertoire. C'est le conseiller caché du prince, du gouvernant, un personnage créé par un grand acteur, Richelieu, pour un autre grand acteur, le père Joseph. » Qu'est-ce qui en fait de ce père Joseph son originalité ?
Bien, je pense d'abord sa personnalité double. Il y a vraiment deux hommes dans le père Joseph. Le mystique, cet homme qui parcourt l'Europe dans sa robe de bure, les pieds nus, il scrute le ciel jusqu'à en devenir aveugle. C'est vraiment le mystique avec ses visions. Personnalité très émotive d'ailleurs. Et puis à côté de ça, c'est un diplomate hors pair. C'est vraiment l'image classique du diplomate qui tient 10 discours simultanément pour arriver à un but caché, un but qu'il ne révèle pas. Et c'est un diplomate vraiment très retors. Alors je crois que c'est ça le mystère du père Joseph, l'énigme.
Mais il a été les deux simultanément, c'est-à-dire il est resté pieux et ses visions dont vous parlez, il l'a eu toute sa vie, ou il est devenu plus diplomate dans une seconde phase? C'est simultané, il a toujours été les deux.
Il reste les deux toute sa vie, mais il y a des moments où il est plus mystique et des moments où il est plus diplomate. Et en particulier à l'extrême fin de sa vie, il souffre. Il explique aux abbesses qu'il fréquente à chaque fois qu'il a une vision et qu'il veut se confier, il leur dit qu'il s'est éloigné de Dieu et que Dieu s'est éloigné de lui, qu'il a trop donné dans les affaires d'ici-bas. Il a un doute. À la fin de sa vie, il a un doute.
Mais il a indéniablement beaucoup donné dans les affaires d'ici-bas. Ça a été l'essentiel de sa vie.
Certainement. Oui.
Mais c'est un homme secret. Est-ce qu'il a cultivé le secret? Parce que si vous interrogez les gens, les Français aujourd'hui, on connaît tous le cardinal de Richelieu, mais beaucoup moins le père Joseph.
À son époque, il est célèbre. Le sommet de sa carrière, c'est la diète de Ratisbonne. On le reconnaît dans la rue. Tout le monde sait que c'est devenu un des grands d'Europe. C'est un des grands sur la scène mondiale, en quelque sorte. La scène européenne de l'époque, qui est une scène mondiale en réalité. Donc, à cette diète de Ratisbonne, où sont réunis les grands, les fameux princes électeurs, les saints princes électeurs, qui doivent décider du sort du Saint-Empire, il est là, il intrigue, il les rencontre les uns derrière les autres. Puis il rencontre les conseillers de l'empereur, et tout le monde le prend très au sérieux.
Oui. Enfin, il est surtout reconnu, c'est un peu comme si le Dalaï Lama arrivait dans une tribune, parce qu'il a sa robe de bure, ses sandales, les pieds
nus. Ah non, je dirais pas le Dalaï Lama, non.
C'est plutôt... Vous allez trop loin, Stéphane, là.
Non,
vous dérapez.
Ce serait Kissinger dans un habit ecclésiastique.
Ah. C'est pas mal aussi.
Mais il n'entrerait pas. Bon. Je crois que le père Joseph et Richelieu se rencontrent par l'entremise involontaire d'Antoinette d'Orléans. Est-ce qu'on peut dire qu'entre eux, il y a une amitié qui est née, ou c'était un rapport de patron à subalterne? Quelle était la nature de leur relation?
Non, c'est une amitié extrêmement forte. Une amitié d'une intensité. Dans cette galerie d'éminences grises que j'ai essayé de reconstituer, c'est là certainement le rapport le plus intense, incontestablement. Alors, le père Joseph admire chez Richelieu son intelligence et sa volonté, cette volonté inflexible, ce dessein pour lui, pour sa carrière personnelle, Richelieu, et pour la France. Et en échange, je pense que Richelieu apprécie chez le père Joseph incontestablement l'intelligence aussi, mais surtout l'absence d'ambition personnelle. Le père Joseph n'a pas d'ambition personnelle. Il a d'immenses ambitions pour le royaume de France, mais il n'a pas d'ambition personnelle. C'est très curieux.
Dans votre livre, vous distinguez 5 types d'éminence grise. Vous pouvez nous en dire plus? Parce que pour nous, une éminence grise, c'est une éminence grise, mais il y en a 5 pour vous.
Oui, j'ai essayé. Vous savez, comme les précieuses au XVIIe siècle, dessiner la carte du temps des rapports amoureux. Alors, j'ai dessiné une carte du temps de cet autre rapport quasi amoureux qui est celui qui unit une éminence grise et un prince et un gouvernant. Alors évidemment, c'est très divers. J'ai un peu triché, vous l'avez noté. C'est-à-dire que j'ai voulu m'amuser un petit peu et j'ai mis dans ces éminences grises une éminence grise par effraction, qui n'est pas une véritable éminence grise. C'est Jomini, le grand stratège, qui s'impose à Napoléon. Il y a Beaumarchais, que nous connaissons tous, cette vie extraordinaire de Beaumarchais, qui... Et l'homme qui a incité Louis XVI et Vergennes à intervenir aux côtés des insurgents. Et je dis, en manière de plaisanterie, que les Samis, en 1917, auraient pu crier, non pas Lafayette nous voilà, mais Beaumarchais nous voilà. Donc, et puis il y a les éminences grises classiques, eh bien, du côté américain, Harry Hopkins, le conseiller de Roosevelt, qui, et d'ailleurs ça c'est intéressant, c'est un pur exécutant. Vous avez également le colonel House auprès de Wilson.
Ce qui est fort aussi sur la relation du père Joseph et Richelieu, c'est cette amitié entre les deux hommes. Cette amitié, vraiment, ils étaient très proches, même physiquement par leur habitat. Ils s'est rapprochés pour vivre. Ça, c'est quand même c'est rarissime dans l'histoire des éminences grises.
On ne dort pas chez son conseiller.
Oui, c'est rare. C'est très rare.
Nous avons un point commun avec Roosevelt qui finit par demander à Harry Hopkins, son conseiller, de venir vivre à la Maison Blanche.
Ah oui, c'est fou.
Hopkins vient habiter à la Maison Blanche. Il lui donne.
Est-ce à dire que le père Joseph était devenu indispensable pour Richelieu? C'est-à-dire que Richelieu, conscient, j'imagine, de sa propre intelligence, a toujours ressenti le besoin d'avoir le père Joseph auprès de lui?
Oui, absolument.
Il ne s'est pas dit à un moment, c'est bon, je l'ai utilisé, j'ai plus besoin de lui.
Après Ratisbonne...
Mais il a commis des erreurs à Ratisbonne, quand même.
Moi, je pense que c'était plutôt du théâtre. C'est plutôt du théâtre.
Ah, c'est du théâtre pour vous.
Vous savez que Richelieu aimait beaucoup le théâtre. Et donc, au contraire du père Joseph, qui pensait que c'était un péché. Bon, mais ça, c'est une autre histoire. Mais, je pense qu'il y a une part de théâtre. Il y a une part de théâtre. Il n'est pas content. C'est vrai qu'il n'est pas content du père Joseph, mais ce n'est pas grave, parce que le père Joseph a violé les consignes de Richelieu, parce qu'il a cru que tout allait mal en France. Et il a cru que Louis XIII était mourant et que la situation de Richelieu était en danger. Donc il fait une légère concession, il accepte de traiter sur ces petites questions territoriales, ces couloirs de Danzig de l'époque, la Valteline, le duché de Mantoue, on ne va pas ennuyer les auditeurs avec ces questions techniques. Et il lâche là-dessus, il accepte ce que demande l'empereur. Mais c'est pas ça sa vraie mission. Sa vraie mission est complètement réussie. Sa vraie mission, c'est d'empêcher l'empereur de devenir un monarque à l'image du roi de France, un monarque unifié, en fait, une souveraineté unifiée. Ça, il a réussi. En plus, il a divisé par deux les forces de l'empereur. Il a obtenu que les forces de Wallenstein, l'armée privée de l'empereur, soient divisées par deux. Donc, sur l'essentiel, il a rempli gagné totalement sa mission.
Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Charles Zorgbib. Je rappelle le titre de votre dernier livre, Les éminences grises dans l'ombre des princes qui nous gouvernent, aux éditions de Fallois. Il y a 16 portraits, dont le père Joseph, qui nous a occupés aujourd'hui, qui était dans l'ombre de Richelieu, mais aussi Jomini, l'autre cerveau de Napoléon, Harry Hopkins derrière Roosevelt, Jacques Foccart, le père Joseph du général de Gaulle pour les affaires africaines, ou encore François de Grossouvre, qui a conseillé François Mitterrand et qui a mal fini lui aussi. Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Ici Europe 1.
16h-18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous écoutez l'émission qui raconte l'histoire sans se la raconter. Et elle nous en parle des histoires. Ah, cette Clémentine Portier-Kaltenbach.
Quand vous dites cette Clémentine Portier-Kaltenbach,
oui, parce qu'elle est unique.
Elle est unique au monde.
Elle est unique au monde. On nous l'envie.
Exactement. Et elle est avec nous chaque après-midi pour nous raconter l'intimité de l'histoire. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un objet.
L'histoire de la canne de Lully. Alors, cette histoire, c'est quoi ? Le 8 janvier 1687, Lully dirige son tédéum en l'église des Feuillants, rue Saint-Honoré. Il est très énervé parce qu'il trouve que ses musiciens sont pas bons. Il s'énerve, il se blesse le pied en battant la mesure avec sa grosse canne. Hélas, le pied blessé s'infecte, se congestionne, se gangrène. Il faudrait amputer l'orteil, puis le pied, puis la jambe.
Oh là là.
Mais comme Lully adore danser, il refuse. En 2 mois et demi, la gangrène se généralise, c'est la septicémie. Le musicien s'éteint le matin du 22 mars 1687 à 55 ans, après des mois d'atroces souffrances. Alors ça, c'est l'histoire telle que nous l'avons tous entendue, racontée. Hein, c'est, vous la connaissez comme ça, Stéphane?
Oui, j'avais entendu.
Exactement, c'est ce que j'ai toujours entendu, moi.
Bon, alors, c'est autre chose, en fait. D'une certaine manière, d'abord, c'est la servilité de Lully qui a causé sa mort. Jamais de sa vie, il n'avait composé d'œuvres religieuses. Et là, pour célébrer la guérison du roi, il se met en tête de composer un tédéum. Guérison, bien sûr, vous connaissez maintenant l'histoire, parce que 1686, c'est l'année 2, l'opération 2, Mathieu.
Pardon ?
De la fistule anale de Louis XIV.
Oui. Pardon, j'avais oublié la fistule.
Vous oubliez la fistule. Donc, cette année-là, Louis XIV souffre le martyr et le 17 novembre 1686, sous le coup d'une douleur intolérable, il prend la décision d'en finir et d'accepter l'opération. Il est opéré le lendemain. L'opération dure des heures, c'est un supplice, mais enfin, il guérit.
Que, n'oublions pas qu'il n'y avait pas d'anesthésie.
Ah, oui.
Les gens oublient ça. Oh, on a opéré le roi de la fistule anale.
Les gens avaient un courage physique extraordinaire.
Il n'y avait pas d'anesthésie, quoi.
Alors, c'est important de le rappeler, le courage de nos aînés.
Ah oui.
Comme Lully est un très bon courtisan, il fait chanter à ses frais son tédéum avec 150 musiciens. Et pour mieux marquer son zèle, il battait la mesure, écrit le cerf de la Vierville. Le problème, c'est que jamais on n'a vu un chef d'orchestre diriger avec une canne. Jamais. Au 17e, au 18e, il n'y a que deux façons de diriger un orchestre. Soit avec un rouleau de papier, on prend généralement des partitions enroulées, une voire deux, et on bat la mesure comme ça. Soit avec un bâton très court, voire même un archet de violon.
On n'avait pas de baguette, il n'y avait pas encore la baguette.
Non, il n'y a pas de baguette. Et en tout cas, évidemment, Lully a dirigé comme on le faisait à cette époque dans toute l'Europe. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de canne qu'on nous a tous racontée? En fait, il avait sans doute une canne, naturellement, Lully, mais comme ornement, comme signe de distinction. Même les dames au 17e tiennent une canne. Louis XIV se promène jamais sans sa canne. Mais le bâton, c'est tout autre chose. C'est un gros bâton de cérémonie, bâton de commandement, bâton pour battre la mesure dans les balais. Mais en tout cas, ce n'est jamais le chef qui manipule un bâton. Alors, il s'est peut-être frappé le pied avec sa canne, Lully, mais il n'a certainement pas dirigé avec elle. Sachez-le. Alors, ça ne change pas grand-chose à l'affaire, hein, parce qu'il se blesse.
Quand même, hein.
Voilà, il se blesse.
Il s'est blessé avec sa canne.
Il s'est blessé quand même avec sa canne, mais ce n'est pas en battant la mesure avec une grosse canne. Il s'est blessé sans doute avec sa petite canne. Quoi. Alors, il meurt, bien sûr, d'avoir refusé obstinément la solution qui l'aurait sauvé. Mais d'après Philippe Bossan, qui a écrit une magnifique biographie de Lully, cette histoire est surtout révélatrice de la disgrâce dans laquelle était tombée Lully auprès du roi, probablement à cause de l'austère et bigote Madame de Maintenon. Et sans doute, cette disgrâce fut-elle en lien avec l'affaire du petit Brunet. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est que Lully était un libertin qui affichait...
Il avait les mœurs italiennes.
Exactement, mœurs italiennes. Il affiche aussi bien ses maîtresses que ses amants, d'ailleurs. Les mœurs italiennes, c'est ainsi qu'on désigne l'homosexualité au XVIIe. Mais il va aller jusqu'à passer une nuit chez lui avec ce page, au grand scandale de sa femme, Madeleine Lambert. L'affaire fait évidemment grand bruit. Elle arrive jusqu'aux oreilles du roi, qui fait enfermer le petit Brunet chez les pères. Et Louis XIV, lui, haïssait les mœurs italiennes. Pourquoi ? Parce qu'il en avait un exemple trop proche de lui, avec son frère Philippe. Par là-dessus, il y a l'influence de Madame de Maintenon, qui est quand même un petit peu austère. Bon, et ça n'a pas dû arranger les choses. Bref, la preuve éclatante de cette disgrâce de Lully, c'est qu'en mars 1687, il lui est demandé de renoncer à son théâtre à Versailles. On lui dit, on a besoin d'appartements pour le duc de Chartres, le futur régent. C'est pas du tout vrai, ses appartements seront jamais occupés, mais lui doit renoncer à son théâtre. Alors, il avait donc pas le moral avant même d'être blessé. Enfin, il meurt quand même en chrétien pénitent, parce qu'il se fait déposer sur un lit de cendres, la corde au cou. Alors, cette histoire de canne. Le prince de Monaco, correspondant de Couperin, possédait cette canne de Lully dans sa collection. En tout cas, une canne de Lully. Où est-elle aujourd'hui ? Stéphane, est-ce que vous savez où est cette canne de Lully ?
Je peux vous demander, vous voulez qu'on appelle ?
Bah oui, il faudrait demander.
Un coup de fil et vous avez la solution.
Plus simple que trouver la canne de Lully, se recueillir sur sa tombe. Son mausolée est à Paris, à Notre-Dame des Victoires. Enfin, bien sûr, Mathieu, pour vous qui êtes parisien, pour compatir à la fistule anale de Louis XIV.
Je rêve de compatir.
Vous pouvez aller voir le bistouri, ou plutôt la lancette utilisée pour son opération par le chirurgien Charles-François Félix.
Et bénir les progrès de la médecine.
Exactement, c'est au musée d'histoire de la médecine dans le 6e arrondissement de Paris.
Très bien, merci. Oui, on en apprend toujours avec Clément.
Mais surtout, ce qui est absolument délicieux, c'est qu'on connaissait vaguement l'histoire de la canne. Oui. On va pouvoir, maintenant, quand quelqu'un dans un dîner sortira, on va pouvoir le démentir et expliquer, aller plus loin. Et ça, c'est
vraiment
gratifiant.
Dans vos dîners aussi, c'est le sujet de conversation.
On parle tout le temps de la canne.
Je savais que dans mes dîners, ceux de Clémentine, on parlait d'histoire, mais dans les vôtres, je l'ignorais, Mathieu.
Mais oui, mais les jeunes aussi s'intéressent à l'histoire.
Ah oui. Ok.
Ah, attendez, j'ai une question pour vous. M'a débordé, mais j'ai une question parce que ça me hante depuis quelques jours. J'y pense à chaque fois qu'on parle de Versailles, des appartements.
Oui.
Comment sont décernés les appartements ? Il y avait beaucoup de courtisans. Comment on sait qui a quelle chambre ? Pourquoi, au gré de quel changement, on change d'appartement ? Comment ça se passait, en fait ? Vous avez la réponse à ça ?
Oui. Il y avait quelqu'un qui était chargé, justement, de l'attribution des appartements.
Il y avait une liste d'attente.
Et on déménageait tout le temps. C'est-à-dire que
En fonction de votre
rang à la cour, de votre disgrâce ou de votre faveur.
C'est l'enfer.
Et ben oui, on passait son temps à déménager. Les mémorialistes racontent qu'on les voyait, il y avait des cartons qui partaient, et puis on était plus ou moins bien logés. Hein.
En fonction de son rang.
Plutôt mal, d'ailleurs. Tout le monde était plutôt mal logé.
On avait, par exemple, des soupentes, en fait. Quand vous promenez au deuxième, troisième étage de Versailles, c'est des soupentes.
Je vous remercie pour ces éclaircissements et je vous octroie tous les deux un point d'avance pour le quiz qui arrive.
Ça nous fait une belle jambe.
En
tout cas, je me permets de souligner que si vous voulez réécouter dans l'intimité de l'histoire en podcast,
bien sûr,
avec Clémentine, vous pouvez aller sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. Merci Clémentine.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Vous l'avez compris, vous le sentez, Historiquement Votre est une émission familiale, bienveillante et dont les membres prennent un réel plaisir à se retrouver chaque après-midi, sauf au moment du quiz. Là, fini les sourires complices, Stéphane Bern fait craquer ses doigts, il fixe Clémentine droit dans les yeux et annonce la couleur.
Là, ça va être la guerre, oui.
Jouons à Bern to be alive. Hier, c'est un quiz un peu qui s'est fini un petit peu en eau de boudin, si j'ose dire, puisque vous avez tous les deux perdu. Question numéro 1 pour vous, Stéphane. Je vous préviens, elle n'est pas très dure, alors vous avez intérêt à bien répondre. Partons sur les flots. question qui conviendra à mon fils de 8 ans. Pirate et corsaire sont deux exacts synonymes, vrai ou faux?
Je crois pas, non.
Ce n'est pas une réponse, c'est vrai ou c'est faux?
C'est faux.
Vous avez gagné!
Il a gagné avec cette question d'une difficulté inouïe. Effectivement, c'est faux, le pirate n'est reconnu par aucun État ou empire, alors que le corsaire est autorisé, voire payé par un pays qui l'autorise à attaquer les navires marchands ennemis.
D'ailleurs, c'est un peu étonné parce qu'il y a, c'est vendu, je crois, il y a quelques jours, très très cher, une boîte au portrait de Louis XIV qu'il avait remis à un corsaire malouin. Les gens ont dit, mais comment le roi offrait avec son portrait un corsaire?
Mais lui, payé par la France.
Sur Coufle, qui était le plus grand de tous les corsaires du roi.
Sur Coufle,
oui, bien sûr.
Question numéro 2 pour vous, Clémentine. À 12 ans, Staline ne parlait pas russe. Vrai ou faux?
Alors, Staline était géorgien. Est-ce qu'il est, il est possible qu'il ait parlé oui. Oui, je pense que oui.
On sait que oui. N'oubliez pas que la question vous est posée à vous, Clémentine.
Alors, est-ce que ça veut dire? Alors, pourquoi? C'est une blague.
Ça veut dire.
Il n'aurait pas parlé russe, Staline. Où est le piège? Où est la blague? Qu'est-ce qu'il aurait parlé?
Il était géorgien. Parce que maintenant, on apprend.
C'est obligatoire. En V1, avec l'Union soviétique, le russe était obligatoire.
En première langue vivante.
En LV1.
Oui, en LV1.
Oui.
Bon, moi, je pense qu'il ne parlait pas russe.
C'était faux, voyons voir.
Vous avez perdu.
Oh,
mais pourquoi elle a perdu la peau?
Mais parce que c'était un piège, mais c'était un piège particulièrement vicieux, puisqu'effectivement le raisonnement était le bon. C'est jusqu'à l'âge de 8 ans qu'il ne parlait pas russe. Il parlait le géorgien. Dougachvili est né à Gori, près de l'actuelle capitale de la Géorgie. C'est un prêtre orthodoxe qui le lui a appris. Question numéro 3 pour vous, Stéphane. Garantie sans piège. C'est le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro-ondes en 1954. Vrai ou faux? Général de Gaulle, pionnier du micro-ondes.
Les micro-ondes étaient énormes, les premiers micro-ondes. Oui. C'était pas des... Est-ce qu'il aurait pu aller...
En tout cas, pas dans sa cuisine, parce que je pense qu'il aurait désapprouvé
Peut-être une exposition à la Foire de Paris, un truc un peu officiel, on lui aurait fait essayer ça.
D'après vous, Stéphane?
Si on l'a obligé dans une exposition à...
Vous pensez qu'on pouvait obliger le général de Gaulle à faire quelque chose?
Oui, en général, voilà, c'est une invention française. Il faut appuyer sur le bouton.
Non, elle n'était pas française, elle est américaine, je crois.
Oui, en plus, je pense que le micro-ondes est une invention française, Stéphane Merde.
Je ne sais pas, mais...
Non, je crois que c'est...
Écoutez, non, moi j'aurais été le général de Gaulle.
Vous auriez dit non. Vous auriez été l'homme qui dit non.
J'aurais été l'homme qui dit non.
Vous avez...
Il a gagné, c'était faux, ce n'est pas du tout le général de Gaulle qui a fait fonctionner en France le premier micro-ondes en 1954. 1954, c'est effectivement les tout premiers micro-ondes qui sont produits. En revanche, Charles de Gaulle a été le premier à posséder la première montre LIP à fonctionnement électrique. Ça, vous le saviez?
Je savais.
Ah, ça, c'est marrant, il sait les trucs.
Oui, des choses qui servent à rien, mais j'ai un grand-père qui était artisan chez LIP. C'est pour ça.
D'accord. Question numéro 4 pour vous, Clémentine. Au temps de l'Égypte ancienne, pour écrire chat, il fallait 4 hiéroglyphes dont aucun ne représentait un chat. Vrai ou faux?
Je crois volontiers, puisque par exemple pour le hiéroglyphe qui signifie laver montre des pieds, parce qu'à l'époque on foule le linge avec les pieds, comme les foulons à Rome. Donc que le chat ne soit pas représenté par un chat, c'est fort possible, je répondrai oui.
Vous avez gagné!
Elle a gagné, c'est vrai! Alors attention, question supplémentaire.
Si jamais vous trouvez. Gagné, là, déjà,
non, mais oui, mais là, il y a une question où tout peut se jouer maintenant. Savez-vous comment.
On est à deux contre un.
Savez-vous comment on dit chat en égyptien? Comment on disait chat en égyptien? C'est assez simple.
C'est pas miaou?
Bonne réponse de Clémentine Portier-Kaltenbach qui remporte le quiz à la dernière minute in extremis. C'est incroyable ce qui vient de se passer sur Europe 1.
Deux contre deux.
Ah non, pardon.
Vous êtes de parti pris.
Oui, mais surtout.
C'est là votre vrai visage a été démasqué. Et enfin, les auditeurs ont compris.
Non, mais c'est surtout que je suis nul en mathématiques, puisque effectivement, on me signale en régie que nous sommes à deux partout. Nous avons donc la question subsidiaire, la fameuse question 5, question de rapidité avec trois propositions. Attention, concentrons-nous. C'est au XVIe siècle en Chine que l'on inocule pour la première fois une forme peu virulente d'une maladie pour s'en protéger. C'est le principe de la vaccination. Mais d'où vient le mot vaccin? Trois
vache,
propositions.
La vache.
Bah oui, c'est la vaccine, c'est la vache. Oui.
Eh bien, force est de reconnaître, j'ai beau être mauvais esprit, que c'est Stéphane Bern qui remporte le quiz aujourd'hui.
On a grillé. propos poteau.
Oui, à la rapidité. Oui, et pourtant, la rapidité n'est pas votre forme. Mais vous avez été rapide sur le quiz. Effectivement, je
ne
peux pas m'empêcher de rajouter une pique. Oui. C'est en 1770 que 6 personnes ont été immunisées de la variole. On leur a inoculé la variole des vaches qui était présente sur le pis des vaches. On oublie trop facilement ce qu'on doit aux vaches. En plus, moi, c'est un animal qui m'émeut personnellement. Je suis content, Stéphane, que vous ayez remporté le quiz. Vous savez, c'est vraiment. Oui, vous pensez que je suis contre vous ? Pas du tout.
Ah bon, ça me fait plaisir.
Non, j'aime jouer avec vos nerfs, c'est différent. Ouais.
sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Ils ont vécu dans l'ombre d'un géant. Il était temps de leur rendre justice, pas vrai Stéphane ?
Oui Mathieu, pour certains d'entre eux, mieux vaut tard que jamais. Aujourd'hui dans Historiquement vôtre, on braque les projecteurs sur ses compagnons, ses éminences grises, qui ont vécu dans l'ombre des grandes figures de l'histoire. Alors après le père Joseph et Richelieu, je vous parle de celui qui écrivait avec Alexandre Dumas, j'ai nommé Auguste Maquet. Quant à vous Mathieu, c'est comme ça qu'on s'est réparti le boulot, hein. À moi les morts, à vous les vivants, à moi l'histoire ancienne, à vous l'histoire contemporaine. De quel héros de l'ombre plus contemporain donc vous avez choisi de nous parler aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui c'est un héros presque vivant Stéphane, vivant dans nos cœurs en tout cas. Je vais vous raconter le destin de René Angélil, le producteur puis mari de Céline Dion, qui était allé jusqu'à hypothéquer sa maison pour produire le premier album de celle sur qui il a tout misé. Est-ce que vous feriez pareil pour moi Stéphane, juste pour savoir ? Bah, si j'avais envie de faire mon album, par exemple.
Non, pas pour vous,
pas
mais...
Mais pour d'autres, peut-être. Présentons nos chroniqueurs.
Oui, absolument. Oui. Avec nous, celui qui revient aux origines des objets, c'est David Castel-Lopez.
Aujourd'hui, David, un sujet moi, qui me parle beaucoup.
Mais oui, bien sûr.
Vous remontez jusqu'à l'origine des jeux vidéo.
Jusqu'à l'origine des jeux vidéo, etc., dont on a vu dans l'introduction qu'elle ne concernait pas Stéphane, puisque vous n'avez jamais joué aux jeux vidéo.
Jamais. Ouais. Alors que moi, je pense que je connais toute la préhistoire des jeux vidéo. J'ai trouvé une Mega Drive chez ma mère.
C'était ma console préférée.
Est-ce que vous avez la première édition avec Sonic ?
Bon, on va vous laisser.
C'est un débat spécialiste.
Je vais plus me reconnaître dans la recette d'Olivier Pouls.
C'est possible.
Et puis surtout, quelle recette ? Oui. C'est un peu à votre demande d'ailleurs que je l'ai faite aujourd'hui. C'est pour faire plaisir.
C'est le moelleux au chocolat, c'est ça ?
L'incontournable dessert des bistrots aujourd'hui. Mais
oui,
vous
mais sûr
que
le chocolat n'est plus coulant.
Mais non, moelleux. Il n'est plus fait dans les règles de l'art.
Et ça nous énerve.
Il doit être chiant au resto, lui. Non, rapportez-moi quelque chose de coulant. Là, ce n'est pas coulant.
Et justement, j'aurai le mot de la fin.
Oui, bien sûr, vous aurez le mot de la fin, mon cher Stéphane. Et aujourd'hui, votre expression, est-ce qu'elle a un lien avec notre invité tout à l'heure qui s'appelle Nicolas Carreau ?
Non, pas du tout. Il faut se tenir à carreau.
D'où ça peut venir ? Ce qui est fou, c'est que vous le savez déjà. Moi, je ne le sais pas.
Dans l'attente,
c'est insupportable. Tout de suite, Stéphane, la France n'y tient plus. Je la sens qui vacille d'impatience, suspendue à vos lèvres. Voici notre deuxième récit du jour. On connaît tous Alexandre Dumas, sauf Pouls. Mais qui connaît Auguste Maquet ? Ah ah.
16h, 18h, historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël. Le récit.
Auguste Maquet est un homme de lettres resté dans l'ombre du grand romancier Alexandre Dumas. C'est avec sa collaboration que Dumas a écrit ses célèbres romans Les Trois Mousquetaires, Le Comte de Monte Cristo, La Reine Margot et bien d'autres. Pourtant, si le nom d'Alexandre Dumas est resté dans l'histoire, Auguste Maquet, quant à lui, est tombé aux oubliettes. En 2002, lorsqu'on a transféré la dépouille d'Alexandre Dumas au Panthéon, une seule voix s'est élevée au nom d'Auguste Maquet. Celle de la célèbre écrivaine Régine Deforge. Dans le journal L'Humanité, voici ce qu'elle écrit. « Pour avoir aidé à l'élaboration de ses chefs-d'œuvre, ne devrait-on pas faire à M. Maquet une petite place au Panthéon auprès de son complice ? Ce ne serait que justice. » Auguste Maquet est né 189 ans plus tôt, en 1813. Dans une famille de riches industriels parisiens, c'est un élève brillant. À 16 ans, il est nommé répétiteur de latin grec au lycée Charlemagne à Paris. Et à 18 ans, il devient professeur de rhétorique. Passant un doctorat en lettres, Auguste Maquet se destine à l'enseignement. En dehors de l'université, il côtoie le petit cercle des auteurs romantiques auxquels appartiennent le romancier Théophile Gautier ou le poète Gérard de Nerval. En 1832, manque de chance, il échoue à l'agrégation et décide alors de se consacrer uniquement à l'écriture. Je vais demander à la littérature ce que l'université me refuse, gloire et profit, aurait-il déclaré. Mais la voie de la réussite est semée d'embûches pour l'aspirant écrivain. Vous n'êtes pas un nom, lui répond-on, lorsqu'il propose une pièce au Théâtre Saint-Antoine à Paris. Persévérant, il envoie aussi un roman historique qu'il vient d'écrire. Il l'envoie aux journaux, mais essuie un nouveau refus. Vous vous demandez peut-être pourquoi Auguste Maquet envoie son roman à la presse et non à une maison d'édition, comme on le ferait aujourd'hui. Parce que, voyez-vous, Mathieu, à l'époque, avant d'être édité sous forme de livre, les romans sont publiés comme feuilletons dans les journaux, chapitre par chapitre. Plus tard, ce sera le cas des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte Cristo. Ils tiendront les lecteurs de journaux en haleine pendant des mois. Mais revenons à l'époque où Auguste Maquet reçoit refus sur refus. Alexandre Dumas est déjà un feuilletoniste réputé. Le journal La Presse a publié, avec succès, La Comtesse de Salisbury, de juillet à septembre 1836. Il a aussi écrit quelques pièces de théâtre. C'est le poète Gérard de Nerval qui fait le lien entre Alexandre Dumas et Auguste Maquet. Il fait lire à Alexandre Dumas une pièce qu'Auguste Maquet a écrite. Il s'agit du « Soir de carnaval ». Alexandre Dumas, enthousiasmé, accepte de réécrire et en change le nom. En 1839, le soir de carnaval devient Bathilda. Alexandre Dumas refuse toutefois de la co-signer. Ce sera la seule et unique fois qu'il laissera Auguste Maquet sous les feux des projecteurs. N'allez pas croire que Dumas agit par bonté d'âme. Il préfère tout simplement recevoir discrètement sa rémunération sans que ses nombreux créanciers ne l'apprennent. Bathilda est jouée au théâtre et c'est un succès. Auguste Maquet, estimant avoir une dette envers Alexandre Dumas, accepte de lui céder un roman historique qu'il n'avait pas réussi à faire publier. Il s'agit du Bonhomme Buvat. Dumas le rebaptise le Chevalier d'Armental, le signe et le publie en feuilleton dans le journal à partir de juin 1843. Le roman remporte encore un franc succès et le tandem décide de poursuivre cette fructueuse collaboration. Bon, c'est bien simple. Les Trois Mousquetaires, le Comte de Monte Cristo en 1844, la Reine Margot en 45, le Vicomte de Bragelonne en 47. Tous ces romans devenus des incontournables de notre littérature sont écrits à quatre mains par Auguste Maquet et Alexandre Dumas. Maquet est un homme rigoureux qui se distrait peu. Tout le contraire d'Alexandre Dumas, un génie désorganisé qui profite sans doute un peu trop de la vie. Il ne faut pour autant pas minimiser le talent du célèbre écrivain, ni sa capacité de travail. « Bonjour, mauvais jour, j'écris quelque chose comme 24 000 lettres dans les 24 heures », déclare Dumas. Le fonctionnement du duo, voyez-vous Mathieu, est toujours le même. Auguste Maquet fournit une première version qu'Alexandre Dumas réécrit, allonge de quelques passages et signe de son seul nom.
Pratique.
Pourtant, dans le milieu littéraire, personne n'est dupe. Voici ce qu'écrit le journal Le Constitutionnel en 1845. Monsieur Auguste Maquet prête souvent son savoir et son esprit aux autres. Et après l'avoir prêté, il reste modestement dans l'ombre et ne demande pas même une part légitime d'intérêt pour ce prêt généreux. La même année, Eugène de Mirecourt, journaliste fervent détracteur de Dumas, va encore plus loin en publiant un pamphlet intitulé « Fabrique de romans maison Alexandre Dumas et compagnie ». Il remet en cause la paternité des œuvres de Dumas, l'accusant d'être un esclavagiste littéraire ayant recours à des nègres, s'épuisant à la tâche pour lui fournir sans cesse de nouvelles œuvres. C'est d'ailleurs à partir de cette époque que le terme de nègres littéraires se popularise pour désigner les employés anonymes d'écrivains célèbres. Dumas, outré, porte plainte pour diffamation. S'en suivront de nombreux procès entre les deux auteurs, car Maquet commence à réclamer la paternité de ses œuvres, ce qu'Alexandre Dumas lui refuse. En 1857, la justice tranche. Auguste Maquet recevra 25% de droits d'auteur contre son renoncement à la paternité des ouvrages écrits avec Dumas. Auguste Maquet accepte la mort dans l'âme. Vous vous en doutez, les auteurs ne travailleront plus jamais ensemble. Dès le début des années 50, Auguste Maquet avait commencé à écrire seul plusieurs ouvrages qui sont chaudement reçus par la critique et lui valent de vieillir plutôt à l'abri du besoin. Ce n'est pas le cas de Dumas, qui finit ses jours en 1870 totalement ruiné. Quant à Maquet, il meurt dans son château de Saint-Mesmes le 8 janvier 1888. Dans sa bibliothèque figurait un exemplaire unique des Trois Mousquetaires imprimé à sa demande. Sur la tranche, on pouvait lire « Les Trois Mousquetaires » par Alexandre Dumas et Auguste Maquet.
Europe 1, historiquement vôtre.
vôtre.
Moment de tension à suivre dans le studio, car je sens que notre invité, Nicolas Carreau, bonjour Nicolas.
Bonjour Mathieu, bonjour
expert
Stéphane.
Expert littéraire d'Europe 1, expert d'Alexandre Dumas, et aussi connaisseur d'Auguste Maquet. Je vous ai fait moult mou durant le récit de
Stéphane. J'en ai marre de Maquet.
J'ai l'impression, il en a marre de Maquet.
Alors, quand on connaît Dumas, on connaît Maquet, mais quand on lit Dumas, le public ignore la plupart du temps que derrière le grand Dumas, il y a Auguste Maquet.
Plus maintenant, parce que maintenant, à chaque fois qu'on a une nouvelle édition des Trois Mousquetaires ou du Comte de Monte Cristo, il y a une longue préface qui parle, pas que, mais qui parle de Maquet, qui explique sa collaboration, etc. En fait, Maquet, on l'a réhabilité depuis... c'est assez récent, finalement. C'est quand on a réhabilité Dumas, d'une certaine manière. Vous savez, à la fin des années 90, on a commencé à parler de la panthéonisation de Dumas, ce qui n'était toujours pas le cas, parce que Dumas était longtemps méprisé, hein, considéré comme très populaire, trop populaire, etc. Et donc, on l'a fini par le panthéoniser. Et à ce moment-là, comme il est redevenu un monstre sacré, eh ben, on a commencé, comme on sait très bien faire en France, à démonter la statue. Et on a ressorti ce bon vieux Maquet. Mais Maquet, c'est... Alors certes, hein, attention, il a collaboré avec Dumas, on lui doit des très bonnes idées, etc. Mais c'est pas du tout lui qui a écrit les livres de Dumas.
Mais comment vous le savez succès...
Bah parce que on sait exactement, on a lu le manuscrit, on peut comparer.
Ah, on peut comparer le manuscrit de Maquet.
Il devait une trame, il avait l'idée de l'histoire.
Voilà.
Et ensuite, Dumas se servait de cette trame pour faire son ouvrage.
Exactement. Il pouvait même donner éventuellement des premières versions que Dumas ensuite reprenait et auxquelles surtout il donnait un souffle et puis un génie que Maquet n'avait absolument pas, malgré ses qualités hein, de scénariste. Si
seul Maquet n'écrivait pas bien.
Alors, c'était mineur, quoi. C'était un type qui était frustré, en fait, de ne pas pouvoir vivre aussi bien que Dumas de sa propre plume. Ça ne veut pas dire qu'il était sans talent, attention. Hein. Il y a aussi des hasards dans la vie et puis le fait que Dumas... Voilà, était un nom et Maquet non. Et donc, il a fini par être très frustré de ça. Et puis, il a voulu s'accaparer l'œuvre de Dumas. Alors qu'en fait, pas du tout. Dumas avait beaucoup de collaborateurs, dont Maquet. Il avait beaucoup de nègres. Il y a une histoire qui est assez connue chez les Dumasiens. C'est Dumas qui avait un nègre pour écrire un de ses feuilletons. Bon bref, il apprend dans la nuit que ce nègre est mort. Et donc, il regarde le journal le lendemain. Et en fait, il y a l'épisode.
Mais
parce que le nègre avait un nègre. Ouais. Mais c'était ça à l'époque.
Mais c'était donc ce qu'on disait, création de roman Enco. Enfin, c'était une entreprise.
Oui, voilà, on l'entreprise les Dumas, c'était Enco. C'est exactement ça.
Qui était assez méchante langue.
Mais c'est une pique, mais ça dit bien ce que c'est. Et effectivement, et c'est pas grave, parce que c'est Dumas qui avait le génie. C'est Dumas qui reprenait tout. Par exemple, je crois que c'est pour le Chevalier d'Armental. Non, c'est pour les Trois Mousquetaires. Il y a un passage, on sait qu'il a été écrit par Maquet, il fait une douzaine de pages. Et ensuite, on a la version de Dumas qui fait 70 pages. Et ça n'a rien à voir. Le côté sec et un peu, voilà, mais pas mesquin, mais un peu petit de Maquet. Oui. Tout à coup, avec Dumas, ça prenait une ampleur, voilà. Plus scolaire, exactement.
C'est scolaire. Alors qu'il y avait le souffle de Dumas qui donne tout d'un coup de la vie à ses personnages.
Et puis Maquet s'inspire aussi d'écrivains. Hein, quand il écrit Le bonhomme Buvat qui a donné le Chevalier d'Armental, qui est la première collaboration avec Dumas, en fait, Maquet, il s'inspire des mémoires de Jean Buvat. Hein, et donc, il reprend une trame pour en faire autre chose. Bien sûr. Est-ce que vous connaissez Gatien Courtis de Sandrart ? Il n'est pas connu du tout. Et pour cause, il est complètement oublié. C'est lui qui a écrit les mémoires de Monsieur d'Artagnan. Dedans, il y a D'Artagnan, Athos, Porthos, Aramis. Mais bien sûr, et c'est là-dedans, et c'est Dumas qui le dit, hein, en préface de son propre roman.
La littérature est faite d'emprunts.
C'est là-dedans qu'il prend. Mais vous lisez les mémoires de Monsieur d'Artagnan, c'est nul. C'est vraiment, c'est mal écrit et tout. Et vous lisez les Trois Mousquetaires, voilà, c'est un chef-d'œuvre.
Mais Mirecourt dit des choses dures, et il parle notamment d'esclavagisme littéraire. C'est terrible parce que c'est à partir de ce moment-là qu'on a parlé des nègres littéraires, même si maintenant on préfère la forme anglaise, américaine, de ghostwriter, d'écrivain fantôme, parce que évidemment ça pourrait être mal interprété. Qu'est-ce que vous en pensez, Nicolas Carreau ?
J'en pense que il y avait beaucoup de jalousie à l'époque pour Dumas, qui était un nom très connu. Il faut se rendre compte que c'était déjà à l'époque, il était extrêmement populaire, malgré ses dettes, c'est parce que c'était un bon vivant qui achetait n'importe quoi et qui faisait des graves erreurs financières. Voilà. Mais il vendait énormément. C'était quasiment l'écrivain le plus connu de l'époque. Hein. C'était la gloire avec Hugo, etc. Et donc, forcément, des jalousies. Hein. C'est des piques qui sont pas forcément infondées toujours. Mais l'esclavagisme pour les nègres, non. Merci Dumas de les avoir fait bosser.
D'avoir du boulot. Pourquoi il met fin à sa collaboration avec Maquet ? C'est juste parce qu'il écrivait les dettes ou c'est parce qu'ils se sont pris le bec ? C'est une détestation humaine finalement.
Bah c'est pas... parce que procédure judiciaire. Hein. Quand Baquet a commencé à s'énerver, une procédure judiciaire qu'il a perdue d'ailleurs. Et ensuite, bah voilà, ils pouvaient plus travailler ensemble. Et puis d'ailleurs, Dumas avait d'autres amis pour travailler.
Oui, c'est ça. Alors merci beaucoup Nicolas Caro une fois de plus. On vous retrouve dimanche à 14h avec La Voix et Livre sur Europe 1 évidemment. Avec qui ce dimanche?
Avec Olivier Norek.
Ici Europe 1.
16h, 18h sur Europe 1. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Aujourd'hui, on évoque ces hommes de l'ombre qui se cachent derrière une célébrité. Son nom à elle, c'est Céline Dion. Son nom à lui, René Angélil. Celui qui fut son producteur, son mentor et son mari. C'est l'heure, Mathieu, de votre portrait.
Oui, Stéphane, on connaît tous Céline Dion. On fait d'ailleurs plus que la connaître. Céline a atteint ce degré de notoriété qui fait qu'elle fait quasiment partie de nous, comme une cousine éloignée et très riche. On a tous chanté « My Heart Will Go On » bourré au fond d'un club de karaoké miteux. Ah oui. Vous, moi, David, la tante de David quand son oncle s'est taillé avec sa secrétaire.
Ah bon ?
Oui, vous lui transmettrez mes amitiés. Ça n'allait pas très très fort à l'époque. Et on oublie trop souvent... que derrière le phénomène Céline Dion, il y a un homme qui nous a quittés en 2016, un homme qui n'est pas que l'image tronquée que les médias et surtout les humoristes donnaient de lui sous prétexte que son nom, René, et encore plus prononcé à la québécoise René, était ridicule et offrait aux imitateurs plus ou moins doués des boulevards d'humour grivois à base de « Viens là René, prends moins fort, balance le sirop d'érable ». Nous ne tomberons pas. Nous ne tomberons pas là-dedans.
Vous êtes un hypocrite.
Car c'est un Québec loin des clichés que je vous propose de découvrir cet après-midi. René Angélil voit le jour en 1942 à Montréal. Comme tous les enfants du monde, son premier rêve n'est pas de devenir agent de star, mais star lui-même. Attiré par les sunlights du show business, il commence sa carrière en tant que chanteur dans le trio vocal canadien Les Baronets au début des années 60. Une époque assez compétitive pour les groupes, si vous vous souvenez. Résumé des forces en présence à l'époque, d'un côté les Beatles... De l'autre, eh ben, le groupe à René. Deux groupes chez qui le talent est, comment dire...
plus ou moins développé et protubérant.
Moi, j'aurais dit inégalement réparti. Finalement, l'histoire retiendra plus les Beatles que les Baronets. Le groupe se dissout en 72. René devient alors brièvement et heureusement acteur dans des films indépendants québécois. En 1971, il joue même dans une comédie érotique intitulée « Après-ski ». Il y a des choses dans la vie, Stéphane, qu'on n'a simplement pas envie de voir. Genre jamais. Tout en haut de cette liste, notre mère en guépière, un coït entre un chien et un chat, plus petit... Et René Angélil dans un film érotique, qui déclare en tripotant une jeune skieuse
« J'ai envie de toi. »
« Ah, Philippe. »
« Qu'est-ce que t'as ? Je te piète. »
Non, René. Conscient des limites de son potentiel érotique, René bifurque rapidement vers une autre carrière, le management musical. Sa première star, c'est Ginette Reno.
Mais moi,
Et là, alors je décris la situation en studio, Olivier Pouls, aucune réaction, David Castello-Lopez me regarde. Et là, les yeux de Stéphane s'illuminent visiblement. Ginette Reno, ça vous parle Stéphane?
Bah oui, c'est toute mon époque.
Très bien, c'est toute votre époque. Eh bien, si à part vous, personne ne se souvient de Ginette Reno, eh bien, elle n'a qu'à s'en prendre à elle-même, car figurez-vous que c'est elle qui a rompu son contrat avec René, qui avait pourtant pour elle, je cite, le même plan de carrière que pour Céline.
Non,
très
c'est vraiment merde.
Pour à Ginette. L'époque, cependant, René n'a pas encore rencontré Céline. Et pour le dire avec les mots d'aujourd'hui, il aggrave le seum. Il songe même à arrêter le métier. Un jour de 81, alors qu'il est à deux doigts de remplir le formulaire d'inscription pour un BEP de plombier chauffagiste, il reçoit par la poste une cassette audio. Pff, une de plus. Échaudé par la dernière maquette qu'il a entendue... René relègue la cassette dans un tiroir. C'était ça son quotidien, recevoir des trucs comme
c'est
ça.
C'est vil.
Sans l'écouter. Il faudra toute l'insistance du frère de la petite Céline, Michel Dion, qui le harcèle téléphoniquement pour qu'il écoute enfin. « Ça va juste prendre 10 minutes et ces minutes pourraient changer toute ta vie », lui dit ce bon Michel, qui avait raison. Pour René, c'est le choc. À côté de la voix de Céline, le timbre de Ginette Reno ressemble à celui d'un vieux caribou asthmatique. C'est, dit-il, potentiellement la plus belle voix du monde. Il va désormais la prendre en main et lui consacrer tout son temps. Il la rencontre quelques mois plus tard. Céline a donc 12 ans et un physique, disons, intéressant. Céline n'est pas moche, attention.
Elle n'a pas un physique facile, c'est différent.
Marie-Claire, journal féminin au tact sans égal, raconte à l'époque, l'homme d'affaires découvre alors une jeune fille toute timide, aux dents de travers, au nez un peu grossier, mais aux beaux yeux marrons quand même. Qu'importe cette dentition approximative, René mise tout sur Céline. Mais voilà, très vite, Céline prend conscience de ses sentiments pour son mentor. À 16 ans, à l'âge où les ados normalement constitués dorment sous un poster de Johnny Depp, elle, elle s'endort avec une photo de René sous son oreiller. Les années passent, elle a 20 ans, lui 46. Elle lui dévoile enfin son amour à Paris. C'est beau, c'est romanesque, c'est fort. Mais elle se prend un gros vent. Il la repousse gentiment, elle est trop jeune. René décide de mettre de la distance entre elle et sa protégée en partant vivre à Las Vegas. Céline, elle, met à profit cet éloignement pour contacter Christina Cordula, 43 maçons et l'ancien staff de l'émission Déco, une semaine pour tout changer. La rénovation de l'abbaye de Stéphane dans le Perche à côté, c'est un petit chantier. Mais le résultat est bluffant. C'est une femme sexy et sûre d'elle que René découvre à l'Eurovision en 88. Ce soir-là, elle dit à des millions de téléspectateurs, mais surtout à René... Là, ça commence à devenir un peu plus proche de moi. Elle gagne le concours et en coulisses attrape littéralement la bouche de René, qu'elle convie dans sa chambre d'hôtel avec ces mots qui n'invitent pas à tergiverser. Si tu ne viens pas là, je vais frapper à ta porte. La messe est dite, René a résisté, mais elle l'a eu à l'usure. Joueur de poker invétéré, il décide alors de faire all-in sur sa pouliche. Sûr qu'elle va devenir une star, il va jusqu'à hypothéquer sa maison pour produire son premier album en 81. La suite, vous la connaissez, Céline va devenir au fil des albums la plus grande chanteuse du monde et l'influence de René à chaque étape de sa carrière sera décisive. Par exemple, en 97, quand elle dit non à la chanson d'un film qu'elle trouve, je cite, un peu pourrave, René lui dit « Si Céline, faut le faire, cette chanson c'est… » Et le film c'est Titanic. Les tournées mondiales s'enchaînent, un rythme effréné, René et Céline semblent plus épanouis, plus complices que jamais. Or, il y a bien dû avoir des tensions, des moments difficiles, Céline était parfois épuisée d'enchaîner les shows.
Non mais c'est vrai, ils se rendent pas compte que moi je suis à bout de force avec cette tournée-là. Non mais ils m'en vont au turbin comme un vrai macro.
Le plus beau coup de René, c'est sans doute d'avoir réussi à combiner sa passion pour le poker et le plan de carrière de sa femme en lui faisant signer un contrat mirobolant pour un show quotidien au César Palace de Las Vegas. Oh, 500 000 dollars par soir, Stéphane. Vous qui pensiez avoir bien négocié avec Europe 1, à René, lui, c'était le cador de la négo. Hélas, le 14 janvier 2016, le cancer contre lequel il luttait depuis des années finit par l'emporter. Depuis, Céline, qui a viré un brin mystique, voit des signes de lui partout. Le plafond de la chambre à coucher est illuminé d'étoiles et ça, ça nous rapproche de René. Bah, ça se trouve, c'est juste une trace d'humidité, sachant qu'il y a un jacuzzi à l'étage. Mais bon, si ça lui fait du bien, n'allons pas la contredire. Surtout que Céline est allée beaucoup plus loin dans le bizarre. Depuis 2017, elle ne monte pas sur scène avant de s'être recueillie devant un étrange mausolée qu'elle a fait installer en coulisses. Une tablette en bois où trône, tenez-vous bien, un moulage en latex de la main de René, avec cet écriteau un peu flippant, « Knock on wood with René », soit « Touche du bois avec René ». Elle touche du bois, tape dans la main en latex, et seulement après avoir effectué ce rituel, elle peut monter sur scène. Sachant qu'il y a peut-être d'autres parties de René qu'elle a fait reproduire, on peut s'interroger sur la nature du rituel qu'elle effectue avant d'aller au lit, et avec quel type de moulage. On y soit qui mal y pense, une chose est sûre, Céline est persuadée de communiquer avec l'âme de René. Dernièrement, elle aurait même demandé conseil à un portrait de René, oui, un tableau représentant René, pour savoir si elle devait ou pas reprendre la chanson-titre de La Belle et la Bête. David, Olivier, vous souriez, mais elle n'est pas la seule à entendre des voix. Il faut croire que c'est l'apanage des plus grandes stars. Comme on a pu le constater l'autre jour, quand soudain, en plein enregistrement ici même, Stéphane s'est figé.
En fait, il s'agit de Henri Désiré Landru, accusé. Allô ?
J'ai entendu quelqu'un me parler. J'ai l'impression d'avoir été Jeanne d'Arc.
Et oui, en tout cas Stéphane, si d'aventure je meurs avant vous, j'espère que vous ferez mouler ma main en latex et que vous l'effleurerez à chaque fois que vous rentrerez dans ce studio Coluche.
Oui, mais j'ai toutes les chances de partir avant vous,
oh,
vu mon âge.
Grand Dieu non, grand Dieu non.
Merci Mathieu, c'était 99% vrai. Bon, donc il y a 1% de
oui,
faux.
Oui, et ben, je vous dirai pas le pourcent de faux par contre, et c'est absolument vrai qu'il a joué dans Après Ski, cette comédie érotique mythique.
Ah, c'est incroyable.
Tout en québécois, parce que alors, déjà que le film érotique est ridicule en soi, mais en plus,
c'est
québécois.
Passionnant la vie de René.
Vous avez appris des choses, vous connaissez déjà l'histoire du moulage. Oh,
oui, mais.
Vous savez tout.
Mais vous me faites rire parce que votre récit est burlesque.
Ah, il est burlesque. Merci Stéphane.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Avec lui, c'est long, mais c'est bon. L'esprit de synthèse n'est pas son fort, mais il est passionnant lorsqu'il nous raconte l'origine d'un objet ou d'une pratique. David Castello-Lopez, vous nous parlez aujourd'hui de l'origine du jeu vidéo.
Tout à fait. Alors, j'ai peut-être un côté un peu rigide, mais j'aime bien les chiffres.
Hein. Oui.
Et il y a un chiffre auquel je me suis intéressé aujourd'hui, ça va faire peut-être un petit peu peur, parce que c'est très pointu. Ce sont les chiffres de l'emploi chez les jeunes hommes américains non qualifiés.
Comment avez-vous l'idée de ça ?
En 2000, 82% des jeunes hommes américains non qualifiés avaient un travail, contre seulement 72% 15 ans plus tard, en 2015. Et il y a des économistes américains qui ont essayé de savoir pourquoi. Et ils ont étudié le truc dans tous les sens. Ils ont pris en compte l'influence de la crise, l'automatisation de certaines tâches industrielles, tout ça, mais c'était pas suffisant pour expliquer la baisse. Et donc, leur hypothèse à ces économistes, c'est que les jeunes hommes américains non qualifiés, ils travaillent moins qu'avant, en grande partie parce qu'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo. Et s'ils jouent de plus en plus aux jeux vidéo,
c'est que les jeux vidéo sont de mieux en mieux faits.
Sont infiniment mieux qu'avant.
Mais oui.
En 40 ans, on est passé de ça, et là je m'adresse en particulier à Stéphane et Olivier.
Ça, Olivier, ça vous parle quand même ?
C'est pas le petit jeu de tennis là qu'on avait avec...
Non. Non, ça n'évoque rien en moi, pardon.
Non, c'est Pac-Man, 1980.
Pac-Man. Ah, oui, le Pac-Man.
Vous aviez 15 ans, vous en aviez 9.
Oui.
Voilà, bon, bah, je pas, c'est pas grave. Et donc on est passé de ça à ça dans les années 90, et là je m'adresse surtout à vous, Mathieu.
Hadouken !
Qu'est-ce que c'est ?
Street Fighter.
Street Fighter, et quel personnage ?
Ryu.
Et Ken également, qui sont deux alter ego américains et japonais.
Ah là, dans cette partie de l'émission, faites-moi le malin, Stéphane.
Là,
quand on parle d'agriculture...
une langue...
Mais moi, je suis comme Stéphane. J'ai été élevé au jouet en bois, oui. et au goûter modeste.
Oui, voilà, bon, modeste avec un peu trop de vin, visiblement.
C'est plus notre génération. Deuxième son pour vous, Mathieu, quand même.
Oui.
Yoga Fire.
Ça, c'est qui dans Street Fighter 2?
C'est le méchant.
Ils sont tous un peu méchants. Ils se
non,
tapent
mais
dessus.
C'est le vieux.
C'est Dalshim, l'Indien avec ses grands, ses longs
je
bras.
Je me suis trompé, oui. Ses longs bras, un peu Vishnu, oui, c'est vrai.
J'ai perdu au quiz, exactement. Quoi. Donc voilà. Et aujourd'hui, les jeux vidéo, c'est carrément des mondes virtuels où vous pouvez construire des personnages super puissants pendant des mois, vous investir, exister virtuellement, etc. Et leur hypothèse, ces économistes, c'est qu'entre travailler comme serveur chez McDonald's dans la vraie vie et travailler comme guerrier avec des armes du futur dans un monde qui n'existe pas, eh bien, beaucoup de jeunes hommes américains, ils préfèrent la seconde option, même si elle rapporte pas d'argent. Ils préfèrent avoir un travail prestigieux pour de faux que un travail nul pour de vrai. Et tout ça, ça illustre quand même
ils
le pouvoir.
Ils payent leur loyer avec quoi?
Mais en fait, ils vivent chez leurs parents. Il y a une augmentation massive du nombre de jeunes hommes qui vivent chez leurs parents. Et tout ça, ça illustre quand même le pouvoir de taré des jeux vidéo aujourd'hui dans la vie contemporaine. Évidemment, comme toujours, ça m'a donné envie de savoir quel a été le premier jeu vidéo. Eh bien, pour le savoir, il faut aller dans les années 50. Dans les années 50, il y avait déjà des ordinateurs, hein, mais ils faisaient la taille d'une chambre de bonne. Et ils servaient surtout à calculer des trucs chiants pour l'armée. Vous voyez, mais déjà, il y avait des petits malins d'ingénieurs qui commençaient à se dire « Eh, vas-y, peut-être on peut s'amuser aussi, tu vois ?» Et comme ça, il y a des jeux un peu rudimentaires qui ont été créés. Et notamment en 1950, un jeu de morpion où on pouvait jouer contre l'ordinateur en 1950, hein, quand même, ça fait 70 ans. Ça marchait super bien, sauf que la machine qui le faisait fonctionner, eh bien, elle faisait 4 mètres de haut.
C'était pas pratique.
Voilà, et c'est vrai que jouer au morpion, c'est sympa, mais c'est peut-être pas assez sympa pour acheter une armoire géante juste pour
jouer. Mais alors, qui jouait à ce premier jeu vidéo ?
C'était installé dans une sorte de foire au Canada. D'accord. Et en fait, ça a été démonté depuis, mais c'était un truc dans un endroit public, quoi. Et puis, une dizaine d'années plus tard, il y a un ordinateur qui est sorti et qui est considéré comme le premier ordinateur sympa utilisable par des gens un peu normaux, hein. Et surtout, c'était un ordinateur de taille plus acceptable puisqu'il faisait la taille d'un gros frigo, voilà, tout simplement, et pas non plus d'une pièce, voilà. Et il s'appelait le PDP-1. Il marchait avec des bandes de papier perforées et il a été installé notamment au MIT à Boston. Et les profs du MIT, ils ont donné l'autorisation aux élèves d'utiliser l'ordinateur pour tester des trucs dans leur temps libre. Et il y a un étudiant qui s'appelait Steve Russell qui, comme beaucoup d'ingénieurs, il devait trouver qu'écrire des lignes de code c'était plus érotique que de faire l'amour avec des gens, et donc il passait son temps à faire du code. Et avec deux de ses amis, Steve, il a créé Space Wars en 1962, qui est considéré comme le premier vrai jeu vidéo au sens moderne du terme, avec des manettes, tout ça. J'ai vu comment le jeu fonctionnait, c'est incroyablement pas mal du tout, quoi. Ça se joue à deux, chacun avec une manette, et c'est une bataille dans l'espace entre deux vaisseaux spatiaux qui se tirent dessus. Et c'est fou parce que, en fait, paradoxalement, je trouve que esthétiquement c'est beau et c'est même réaliste.
Ah bon ?
parce qu'ils ont choisi un sujet, l'espace, qui était très adapté visuellement aux moyens dont ils disposaient pour le représenter. C'était en noir et blanc, et on voit ici et là de petits points lumineux qui se détachent sur un fond noir, et ça marche parce qu'un écran noir avec des petits pixels qui scintillent, ça ressemble vraiment comme deux gouttes d'eau à l'espace. Voilà. Bon, moi, c'était ça, les origines du jeu vidéo, qui ont quand même, hein, provoqué des joies assez fortes. Bon, chez vous et moi, Mathieu, un peu moins chez vous,
voire,
Stéphane,
voire même,
et Olivier.
On peut dire aucune.
Mais moi, il y a d'autres choses qui me procurent.
Oui, mais ça, là, on est dans une émission familiale. On parle des jeux vidéo,
en parler dans un instant.
Ah voilà. Oui.
Mais ça fait quand même baisser la population active aux États-Unis.
Mais là, on a attiré une clientèle de jeunes, c'était très bien. Maintenant, on va retrouver.
On va retrouver notre clientèle habituelle.
Grâce à Olivier Pouls et son coulant au chocolat.
Oh, mais les jeunes aussi adorent le coulant au chocolat.
Il a coulé partout, il est prêt, là. Il s'est répandu.
Essuyez-moi tout ça, Olivier.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Historiquement vôtre.
Alors, on commence tous à songer au dîner. On apprécie ses connaissances culinaires, son talent de conteur quand il nous dévoile les origines d'une recette. Voici celui qui, en revanche, ne brille pas par son bagage philosophique. En effet, dès que dans cette émission, Stéphane Bern tente d'élever un peu le niveau, il est là pour le faire retomber illico.
Ce sont les tonneaux vides qui font le plus de bruit.
Mais je les préfère plein.
Olivier Pouls, vous êtes notre expert gastronomique et aujourd'hui, c'est une chronique de commande, puisque je crois que nous avons affaire au dessert préféré de Stéphane Bern. Hein, le coulant au chocolat.
Ah, c'est tellement bon.
D'où ça vient,
c'est
déjà
lui qui me l'a réclamé quelques jours. Sûr, je veux la recette du coulant au chocolat. Oui, c'est assez récent. Et surtout, le vrai, l'authentique coulant au chocolat. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est devenu l'un des desserts les plus commandés dans les brasseries. Mmh. On le trouve de manière industrielle, d'ailleurs, dans les supermarchés. Mais c'est pas l'authentique, le vrai, la base, la recette originale du coulant au chocolat. Aujourd'hui, on va dire que c'est plutôt une espèce de gâteau pas assez cuit, ce qu'on appelle un mi-cuit d'ailleurs, et en fait, bah, vous le coupez, bah oui, le milieu n'est pas cuit, mais c'est pas ça.
Ah, c'est pas ça.
Le vrai coulant au chocolat, il est né dans les cuisines d'un chef génial qui s'appelle Michel Bras, 3 étoiles tout de même à l'Aïeul, hein, dans l'Aubrac. Et l'idée de cette recette lui est venue après une journée passée à la montagne, au ski, et réconfortée par un bon chocolat. Tout le monde était... C'est vrai qu'il n'y a rien de plus réconfortant qu'un chocolat, et puis chocolat chaud qui coule comme ça, c'est un côté très régressif. Et il faut vraiment que j'invente un dessert où on a les textures du chocolat, donc le solide et le liquide. Et après 2 ans de travail, comme c'est 2 ans de mise au point pour réaliser au début des années 80 cette recette, ça y est, il y arrive. Il propose ce dessert à la carte de son restaurant et c'est un succès phénoménal. Alors son idée de génie, c'est de mélanger en fait 2 textures de chocolat, puisqu'il y a un cœur qui est en ganache et un milieu, une espèce de pâte à biscuit. Et en fait, c'est ce jeu de textures qui va permettre, au moment où vous coupez votre coulant, d'avoir le milieu qui vient se répandre là, comme ça dans l'assiette, et d'avoir le croustillant tout autour.
Là, c'est très excitant, mais en même temps, vous nous parlez d'un chef 3 étoiles. Est-ce que nous, on va savoir reproduire ça chez nous?
Oui, comment on va faire?
C'est pas très compliqué, en fait. Ça prend un tout petit peu plus de temps que de faire une pâte à gâteau et de ne pas la cuire complètement. C'est un tout petit peu plus long, mais c'est faisable. Vous allez tout d'abord faire une ganache. Alors, la ganache, c'est très simple. C'est 100 g de chocolat, 15 centilitres de crème liquide et 20 g de beurre. Vous faites fondre tout ça ensemble. Vous en faites des petites boules et vous les congelez. Très important. Mmh. Ensuite, vous allez faire la pâte à biscuit. Pas très compliqué non plus. 200 g de chocolat, 150 g de beurre, 150 g de sucre, 4 œufs, une pincée de sel, 80 g de fécule et 80 g de poudre d'amande. Vous faites fondre le chocolat, le beurre, vous ajoutez le sucre, les jaunes d'œufs, vous montez les blancs en neige, vous rajoutez une petite pincée de sel, la fécule, la poudre d'amande et les blancs. Et ça, c'est la base de votre gâteau. Donc vous allez prendre des petits moules, vous allez mettre 2-3 cuillères de cette préparation, vous allez ressortir vos petites boules de ganache qui sont congelées. Vous allez en mettre une dedans, vous allez refermer le tout.
Elle est encore congelée.
Elle est encore congelée parce que l'intérêt, en réalité, c'est d'avoir 2 températures différentes.
Ah,
ce qui va permettre au moment de la cuisson que les deux ne soient pas cuits de la même manière. Donc vous allez constituer ces petits coulants, vous laissez ça bien au frais. Et ensuite, dans un four à 180 degrés pendant 15-20 minutes, et la magie s'opère, le biscuit va se solidifier et il va entourer cette ganache qui sera devenue fondante par l'effet de la chaleur du four.
Eh bien, avec ça, après ça, vos invités n'auront plus qu'à se tenir à carreau.
Bah,
après
évidemment.
Une telle recette, un tel délice, et se tenir à carreau, c'est une expression qu'on utilise très souvent,
mais
on ne sait pas du tout d'où elle vient.
Et il y a plusieurs explications possibles que je vais vous donner dans un instant.
On pourra choisir celle qu'on préfère.
La plus romantique, si vous voulez.
16h, 18h sur Europe 1, Stéphane Bern et Mathieu Noël. Historiquement vôtre.
Il connaît tous les mots de notre belle langue, toutes ses expressions. C'est à se demander pourquoi il n'a pas encore été élu à l'Académie française. Donc c'est sur un siège latent. Stéphane Bern, c'est l'heure de nous livrer le mot de la fin.
Bon, mon cher Mathieu, je ne sais pas si vous étiez un enfant aussi insolent que vous l'êtes en tant qu'adulte.
Ah non, j'étais super sympa quand j'étais enfant, j'étais tout sage.
Ah bah, ça a vrillé à quel moment, en fait?
Que ne l'êtes-vous resté?
Je ne sais pas, ça a vrillé à un moment.
Mais j'imagine que vous avez souvent dû entendre cette phrase « Mathieu, tu ferais mieux de te tenir à carreau ».
Je confirme, je l'entends encore pas mal aujourd'hui. Mais alors, d'où vient cette formule, Stéphane?
Alors, de la carte à jouer. Dans la bataille, chaque couleur a sa symbolique. Le cœur, c'est la cavalerie. Le pique, c'est l'infanterie. Le trèfle, le fourrage. Et le carreau, l'arbalète. Le carreau était le nom de la flèche qui servait de projectile pour cette arme. On se tenait à carreau quand on était un garde bien positionné derrière son arbalète, prêt à décocher sur l'ennemi. Mais on ne se tenait également à carreau que lorsqu'on se mettait à l'abri du danger, en veillant à se mettre hors de la portée des tireurs.
Alors ça tient la route comme explication. Est-ce que c'est la seule signification, Stéphane?
Ben non, justement, loin de là, il y a pléthore d'explications. Vous choisirez celle qui vous plaît le plus. Moi, il y en a une que j'aime bien, c'est pendant la Révolution. Au moment de rendre la justice dans la salle du tribunal révolutionnaire, le public se trouvait sur une partie d'allée
qui était recouverte de carreaux. Et le public, à l'époque, n'avait pas le droit de s'exprimer. On se tenait donc à carreaux.
C'est bien ça, j'aime bien aussi.
Hein, c'est pas mal. Autre explication encore. Notez que le carreau, dans l'argot du 19e siècle, désignait le domicile. Le carré, c'était la chambre. Ce carré, c'est se mettre à l'abri, en sûreté. Voilà, tenir à carreau, c'est être dans un endroit où vous êtes contenu, vous êtes à l'abri, vous êtes en sécurité et vous mouftez pas. Voilà,
j'aime bien l'arbalète, moi.
Oui. C'est votre côté guerrier.
Bon, vous choisirez l'expression en favorite, celle qui tombera le mieux à pic, si vous voulez.
Bah moi, je les aime toutes, Stéphane.
Vous avez dit que le trèfle, c'était le fourrage, c'est ça?
Oui, absolument.
C'est-à-dire que la logistique pour nourrir les chevaux à la guerre,
oui.
C'est ça?
Ouais. Oui, exactement.
Pourquoi vous semblez contester cette hypothèse-là?
Non, je n'ai pas sûr d'avoir bien entendu. Le fourrage, d'accord.
Le fourrage.
C'était un corps d'armée.
Oui, c'est l'intendant, si vous voulez.
Oui, c'est ça, l'intendant.
Un peu.
Ouais.
C'est une très belle invention de David Castello-Lopez. Ils ont vécu dans l'ombre d'un personnage célèbre, c'est mon histoire, mais c'est aussi celle du père Joseph, d'Auguste Naquet et de René Angélil. Lequel de ces héros de l'ombre vous a le plus touché, Stéphane ?
Écoutez, j'ai beaucoup aimé nos intervenants d'aujourd'hui.
Oui, c'était très, très intéressant.
Très intéressant parce qu'ils
revisitent
l'histoire.
C'est sympa pour se lire, en
oui,
fait.
Ils étaient nuls, là. Ils parlaient des trucs pas bien.
Parfois, le récit l'emporte sur les explications. Bah,
vous avez parfois tellement tout dit dans le récit. Voilà.
On a appris des choses avec le rapport entre le père Joseph et le cardinal de Richelieu. La vérité entre Auguste Naquet et Alexandre Dumas. Et puis vous m'avez fait beaucoup rire avec René, ce cher René.
Oui, même si ça finit mal pour René.
Oui, mais bon, pour nous aussi, ça finira mal.
C'est vrai. On se retrouve demain, en tout cas, pour un nouveau numéro d'Historiquement Vôtre, Stéphane.
Oui, on va parler double foyer.
Les bigleux de l'histoire, original.
Oui, non, ceux qui avaient vraiment un double foyer. Deux femmes, deux familles, deux maisons. Émile Zola, François Mitterrand. Et Hugo Frey aussi.
Hein, j'en vois deux qui se tiennent à carreau là, ouais. Ils disent rien.
Retrouvez Historiquement Vôtre tous les jours de 16h à 18h sur Europe 1 et en podcast sur Europe 1.fr.